Le débat du jour, Florent Guignard.
Bonsoir et bienvenue dans le débat du jour sur RFI. Les entreprises sont-elles condamnées à subir des cyberattaques? Question posée après l'attaque informatique d'une ampleur inédite la semaine dernière. Plus de 150 pays touchés, 300 000 victimes. L'objet du délit, WannaCry, envie de pleurer en français. Un logiciel de rançon qui a donné des sueurs froides à des centaines de milliers d'entreprises dans le monde, en cryptant les fichiers enregistrés dans leurs ordinateurs et en leur demandant ensuite de payer une rançon de $300 pour retrouver ces fichiers. Une semaine après, on signale d'ailleurs une nouvelle vague d'attaques informatiques. Alors, les cyberattaques qui sont quotidiennes, comment vivre avec cette menace? Les pirates auront-ils toujours une longueur d'avance? Pour en débattre, deux invités dans ce studio. Vincent Merlin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des marchés internationaux de Proofpoint. C'est une société spécialisée dans la protection informatique, c'est bien ça?
C'est tout à fait correct.
Et Philippe Trouchot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes associé au sein du cabinet PricewaterhouseCoopers, spécialiste en cybersécurité. Vous avez écrit un livre, La cybersécurité au-delà de la technologie. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors avant d'entrer dans le vif du débat, comment les entreprises peuvent-elles se protéger? On va essayer d'être un petit peu pédagogique, messieurs, si vous le voulez bien, et d'expliquer bien comment ça fonctionne, une cyberattaque, pourquoi et comment WannaCry, ce logiciel de rançon, a eu une telle ampleur mondiale. Vincent Merlin.
Oui, ben alors WannaCry, ça commence par exploiter des vulnérabilités du système d'exploitation Windows. Alors, faut savoir qu'en fait, ces vulnérabilités avaient été corrigées par un patch, mais il faut installer ce patch. Toutes les sociétés n'ont pas installé ce patch, donc WannaCry a exploité cette vulnérabilité dans certaines sociétés, sur certains PC. Et ensuite, WannaCry s'est propagé comme un ver informatique.
Alors, comment il se propage, ce virus?
Alors, écoutez, ce virus se propage, je regarde un petit peu les ordinateurs qui sont connectés au réseau Internet et au-delà, et tous les ordinateurs qui sont vulnérables, le ver va s'en emparer, la petite routine va s'installer et vous allez avoir apparaître sur votre écran un écran ransomware vous demandant une rançon.
Philippe Trouchot, pour que ce logiciel espion, logiciel rançon en l'occurrence, ce virus se propage, à la base, il y a une intervention humaine forcément.
Il y a toujours, dans ces incidents-là, le débrief ou l'analyse qu'on peut en faire dans une entreprise donnée est toujours assez cruel parce que, comme on vient de le voir, c'est simplement qu'on n'a pas mis à jour son ordinateur. Hein. Donc, c'est l'équivalent finalement, il y aura toujours des méchants dans l'économie et si vous laissez la porte ouverte de votre appartement, c'est absolument regrettable d'être cambriolé, mais on pourra toujours vous dire que ça aurait été préférable de la fermer. Donc, il y a, et au-delà du comportement humain, en l'occurrence sur ce cas particulier, ça montre aussi, parce que ça n'a pas ciblé des hôpitaux par hasard, ça montre souvent l'indigence des moyens humains et financiers qu'on consacre à la cybersécurité. Les hôpitaux, je vous apprends rien, c'est souvent des petites structures, en particulier en Angleterre, qui ont des toutes petites directions informatiques et qui évidemment...
Et qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers.
Exactement,
non plus.
Pas moyens financiers, pas de moyens humains aussi, hein, parce qu'il faut quand même un peu de compétences pour faire ce genre de choses. Donc voilà, l'envers du décor est absolument pas mystérieux, c'est simplement un défaut de moyens humains et financiers. Il y a ce type de sujet.
Alors, où l'on parle, est-ce qu'on sait qui est derrière cette attaque?
Alors, écoutez, c'est très compliqué de faire des... C'est ce qu'on appelle une attribution. Savoir qui est derrière une attaque, c'est une attribution. C'est un art aussi bien qu'une science. C'est très compliqué. Il faut regarder le contexte géopolitique parce qu'il y a différents acteurs. Ça peut être un acteur étatique, ça peut être un activiste.
On parle beaucoup de la Corée du Nord. Est-ce que c'est une piste sérieuse?
On parle de la Corée du Nord, mais on pourrait parler d'autres pays. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut rester un petit peu humble et puis il faut attendre. C'est toujours compliqué. Il pourrait y avoir une attaque peut être masquée, ça peut en masquer une autre. C'est très difficile de faire une attribution.
Est-ce qu'on sait combien d'entreprises, Philippe Trouchot, ont payé? On évoque un bénéfice finalement assez maigre là pour cette cyberattaque. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est $70 000 récoltés. Est-ce que vous êtes au courant de ces chiffres?
Je
vous
pense que c'est un ordre d'idée raisonnable. Il se trouve que j'étais à Londres hier et on m'a confirmé qu'effectivement, il y a quand même des hôpitaux qui ont payé, par exemple, à Londres. Hein, parce qu'à un moment, c'est vrai que souvent on dit qu'il ne faut pas accepter ce genre de chantage. Idée que je partage, mais vraisemblablement, il y a quand même des gens là qui ont... qui ont pris peur pour la sécurité de leurs patients. Et donc, voilà, on paye. Ce qu'il faut souligner, c'est que même si le montant n'est pas très significatif, quoique, ça coûte rien à l'attaquant d'attaquer en masse, en fait, hein, puisqu'il n'a pas besoin de présence physique, de ressources humaines, là aussi, pour attaquer. C'est des ordinateurs qui font le travail.
Voilà, le virus se propage.
Voilà, le virus se propage et, en fait, lui-même, il réceptionne les fonds avec des processus automatiques. Donc, lancer des attaques de masse, ça coûte pas plus cher à l'attaquant. C'est pas la même chose que dans la délinquance physique, en fait.
Si je peux rebondir là-dessus, ces attaques, alors c'est pas forcément WannaCry, mais il faut savoir que ces attaques, généralement, elles sont ciblées sur les personnes. Car les personnes, c'est le maillon faible d'une stratégie cybersécurité. Donc, c'est les personnes et la façon dont ces personnes travaillent. Généralement, l'email, ça peut être le téléphone portable ou les réseaux sociaux. 90% des attaques aujourd'hui sont ciblées sur l'email.
C'est-à-dire, pour être clair, on reçoit un email d'un inconnu, on clique sur un lien et ça déclenche, ça fait rentrer
un
le virus.
Un logiciel malveillant ou ça peut être un email phishing, absolument.
Alors, tous les deux, vous conseillez les entreprises, vous leur fournissez des logiciels de sécurité, sans dévoiler leur nom, bien sûr. Est-ce que parmi vos clients, certaines entreprises ont été touchées? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez conseillé?
Alors, Philippe Rouchaud. De manière générale, petit résultat statistique, une entreprise en moyenne, elle connaît à peu près 22 incidents de sécurité par jour. Donc si c'est pas WannaCry, de toute façon, une entreprise, elle est attaquée en permanence. Alors par des gens qui sont plus ou moins compétents pour le faire. En l'occurrence, il faut souligner que cette attaque, elle ne visait pas spécifiquement la France, et les entreprises françaises qui ont été touchées l'ont plus été parce que des filiales à l'étranger l'ont été, et par rebond, le ver a réussi à s'introduire sur un périmètre français, mais on n'était pas spécifiquement visé. Mais on peut retenir ça. Les entreprises, là, il y a un effet, il y a un point important qu'il faut souligner, c'est que on médiatise et finalement on s'occupe du sujet dans une entreprise plutôt lorsqu'il y a des pics d'émotion. Alors un pic d'émotion, il est créé par cette actualité, il peut être créé par le rapport d'un régulateur, par l'émotion d'un président dont le copain, le camarade de golf a été visé par une attaque. Mais on n'est pas constant dans l'effort en matière de protection des actifs de l'entreprise.
Est-ce que vous voulez dire, c'est que cette attaque d'une ampleur majeure, d'ici quelques jours, les entreprises auront oublié et on recommencera comme avant.
Je dirais qu'il y aura quand même quelques leçons à tirer. Installer un patch Windows, par exemple, c'est quelque chose normalement qui doit être peut-être pas simple, mais qui doit se faire de façon automatique ou et régulière. Donc, c'est pas que ces sociétés-là ne le savent pas. Je pense qu'aujourd'hui, un bon système de sécurité, une bonne stratégie de sécurité, c'est des personnes, process, technologie et l'intégration de tout ça. La théorie est simple à comprendre. Par contre, le mettre en application, ça reste compliqué.
Vous avez parlé tout à l'heure du facteur humain qui est finalement décisif. Comment, dans une entreprise, on sensibilise les salariés pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, on va dire?
Alors, si vous voulez, on peut faire de la formation, on peut former les gens. Le problème, c'est que sur ces attaques-là, il suffit qu'il y ait une seule personne qui clique sur le mauvais lien et les systèmes sont affectés. Donc, je pense qu'il faut aider les personnes et il faut véritablement les protéger. Et pour ça, c'est la technologie et les process. Il ne faut pas qu'on rentre non plus dans un monde où on va être suspicieux et on va se poser 10 000 questions avant de cliquer sur un lien. Ça, c'est pas possible. Donc oui, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Il faut même changer la culture des personnes, notamment chez les jeunes, parce qu'ils ont tendance à faire énormément confiance aux réseaux sociaux, à leurs portables, etc. Donc oui, il y a un changement culturel qui doit opérer, mais il faut véritablement que la technologie aide les personnes.
Vous travaillez dans ce secteur, Philippe Trouchot. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises, elles prennent ces attaques suffisamment au sérieux?
Oui, les entreprises et les CEO, enfin les directions générales, ont un rapport sérieux avec ce risque-là. Le grand drame des directions générales, c'est que lorsqu'elles essayent de se pencher sur le sujet plus concrètement, elles sont souvent abreuvées de termes technologiques et on leur vend tout de suite de la technologie. La technologie, elle est nécessaire, mais il faut qu'on revienne à une gestion beaucoup plus sereine et beaucoup plus centrée sur les risques, sur ce sujet. Et les directions générales doivent, finalement, au-delà des entreprises, il y a un point qui est très important qu'il faut qu'on souligne, c'est que tous ces incidents ont quand même un impact, c'est qu'elles diminuent la confiance du consommateur. consommateur final. Hein. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez masqué parce que la nouvelle ne fait pas plaisir à tous ceux qui veulent investir massivement dans le digital, et c'est nécessairement quelque chose de souhaitable d'investir dans le digital. Ça nous donnera beaucoup plus d'efficacité dans les entreprises, une meilleure expérience client, mais il y a un vrai warning, et donc finalement une responsabilité collective à avoir, je pense, c'est que la confiance du consommateur final, elle diminue. Les gens n'ont pas confiance.
Est-ce que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles des entreprises touchées ne portent pas plainte pour éviter une mauvaise publicité, Vincent Merlin?
Oui, c'est certainement une des raisons. Ensuite, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de sociétés qui, quand elles ont été victimes d'un breach, on dit, vont le rendre public. Bientôt, avec la norme GDPR, ce sera même rendu obligatoire. Mais je pense que je voudrais rebondir là-dessus, Monsieur Trouchou, je pense que c'est un point très intéressant. Les entreprises sont conscientes qu'il y a un véritable problème. Par contre, entre la prise de conscience et la prise d'action véritable, il y a toujours un temps d'écart.
Et la protection informatique, finalement, ça coûte cher pour une entreprise. Absolument. Là, on va se mettre à la place d'une entreprise qui s'est fait pirater donc par WannaCry, qui lui propose de payer $300 pour récupérer ses fichiers. Est-ce qu'elle va pas se dire, finalement, $300, c'est pas si cher. Si je fais appel à une société informatique, ça va me coûter beaucoup plus cher.
Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est si vous achetez une voiture aujourd'hui. Vous achetez une voiture, peut-être que vous allez acheter une voiture parce qu'elle est davantage sécurisée, protégée qu'une autre voiture. C'est vraiment un point fort dans votre politique marketing, par exemple. C'est quelque chose que vous allez mettre en avant dans vos publicités. Je pense que très bientôt, vous verrez que des sociétés vont vraiment mettre l'accent sur la sécurité, et c'est quelque chose qu'elles vont pouvoir valoriser, et c'est quelque chose qui va se traduire dans leur marge, avec sur la confiance de leurs clients, sur leur image de marque.
Philippe Truchot.
Ouais, juste pour rebondir sur le sujet, d'abord, c'est quand même un risque majeur pour l'entreprise, parce qu'au-delà des quelques pertes financières, ça entame son capital de marque, hein, ce qui est quand même souvent le premier actif d'une entreprise. Et ensuite, pour situer le niveau de sous-investissement en matière de cybersécurité, alors le point de comparaison que le marché retient, on compare ça à la dépense informatique. Donc les entreprises, elles dépensent en moyenne 1% de leurs moyens informatiques sur la cybersécurité. Le consensus veut que à partir de 8%, vous commencez à être à peu près convenablement sécurisé. Et quand vous avez des initiatives digitales que vous reliez à vos anciens systèmes, il faut être dans la zone des 15-20%. Alors, je rappelle, aujourd'hui, on dépense à peu près 1%. Donc, on a un sous-investissement notoire et qui n'est pas le seul problème auquel on va devoir faire face.
Là, vous prêchez un peu pour votre paroisse, c'est pour votre business.
Non, parce que c'est plutôt monsieur qui vend de la technologie. Ouais, moi, je ne vends pas de technologie. Vous voyez,
là-dessus, je suis entièrement d'accord avec monsieur Trouchot. Je donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font leur migration sur le cloud, notamment elles vont investir dans Office 365. C'est une excellente solution, elles ont bien raison de le faire, mais Office 365, il faut le sécuriser davantage. En sécurité, avoir une bonne posture sécurité, c'est pas suffisant. Il faut avoir une excellente posture sécurité.
Et alors, une question très, très technique, mais qui peut intéresser nos auditeurs, c'est Windows qui a été attaqué. Est-ce que si on utilise un système d'exploitation libre, type Linux, on est davantage sécurisé, davantage à l'abri d'une attaque, d'une cyberattaque?
Je pense pas que vous soyez davantage sécurisé. Par contre, c'est sûr que pour les cyberattaquants, les assaillants, c'est moins intéressant. Parce que ce sont des systèmes d'exploitation qui sont tout simplement moins utilisés. C'est vrai qu'il y a des langages, des systèmes d'exploitation qui sont plus utilisés que les autres. Mais les assaillants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder, ce sont des personnes intelligentes, elles vont essayer d'optimiser leur profit. Donc, c'est le système d'exploitation qui est utilisé par tout le monde qui va être visé.
Alors, dans l'affaire WannaCry, ce qu'on a appris, c'est que la faille de sécurité dans Windows avait été détectée il y a plusieurs années par la NSA, la grande agence de renseignement américain, et qui a préféré garder ça pour elle. Est-ce que c'est une attitude responsable, à votre avis?
Alors, comme on dit, la réponse est contenue dans votre question. Voilà. Et malheureusement, ça arrive souvent, ce genre de comportement. Et à l'avenir, je pense qu'on peut retenir que finalement, l'état actuel de la cybersécurité, c'est à peu près, si on fait un parallèle avec l'histoire, ce qui se passait au Moyen-Âge. Donc chacun est dans son petit château fort, se défend avec sa petite milice. Et finalement, on voit bien quand même que l'époque du Moyen-Âge avec tout un tas d'inconvénients. Donc on peut appeler chacun de nos voeux le fait qu'il y ait plus de collaboration. Ça veut dire plus de collaboration relations entre les instituts de recherche, entre les États, entre les entreprises. Les entreprises doivent apprendre à collaborer, y compris avec leurs compétiteurs sur ce sujet. Et encore une fois, aujourd'hui, on est au balbutiement de cette collaboration. Alors, le pire a été illustré par la NSA qui, ayant détecté cette faille, n'a même pas prévenu des gens comme Microsoft, parce que les circuits chez Microsoft, comme ailleurs, pour réparer une faille, ils sont assez connus et assez réactifs, en fait. Le drame vient, en plus, là, c'est vraiment l'histoire de l'arroseur arrosé, parce
que la NSA s'est fait voler
elle-même cette faille, alors voilà. On n'en finit plus. Donc voilà, donc la transparence et la collaboration, ça va devenir des pierres angulaires et des vraies valeurs pour la cybersécurité.
Absolument. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs qui collaborent. Il y a des vendeurs, une société comme la mienne, la société M. Trouchot collabore aussi. Donc il y a énormément de collaboration, notamment au niveau des vendeurs. Je pense qu'au niveau de la collaboration, il est important aussi de préciser que ça commence par soi-même en quelque sorte. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la supply chain. Donc on travaille avec des partenaires. Là-dessus, il est fondamental d'être en partenariat très étroit avec ses partenaires.
Est-ce qu'il faudrait une agence des Nations Unies consacrée à la cybersécurité ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça serait utile ?
Écoutez, est-ce qu'il faut une agence ? Est-ce qu'il en faut plusieurs ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Alors, est-ce que le problème, c'est pas qu'il y ait trop d'initiatives et qu'il n'y en ait pas une qui soit concertée ? Je suis pas certain aujourd'hui qu'on soit dans une position vraiment d'avoir un seul gendarme mondial. Je suis pas certain que ça règle absolument tous les problèmes.
Ouais, je suis assez de cet avis. Je pense que la régulation, les agences, c'est une marque. Je pense qu'il faut d'abord faire confiance aux entreprises. Les directions générales comprennent bien que c'est un risque majeur qui entame leur capital de marque. Et je pense qu'il faut qu'aussi on fait là aussi un rapport à l'histoire. Il faut prendre ça un peu comme l'ouverture des routes maritimes. En fait, ça a permis d'avoir un intérêt économique commun qui était de se dire on a intérêt pour le commerce et évidemment pour l'efficacité. D'ailleurs, c'était tout à fait les propos de notre nouveau secrétaire général à l'économie numérique, qui était de dire il faut recréer de la confiance. Voilà, donc il y a un intérêt économique mondial à avoir ce qu'on peut appeler en termes anglo-saxons un white net, c'est-à-dire un endroit qui crée de la confiance parce qu'il n'y aura pas ce type d'incident. Je ne suis pas certain qu'il faille, si vous me passez l'expression, rentrer dans des usines à gaz mondiales, parce que je ne suis pas certain que ça répondra aussi quand même à la nécessité de réactivité qu'on a en matière de cybersécurité. Donc faisons plutôt confiance aux entreprises, facilitons leur organisation, je pense que tout ira mieux à partir de là. Quoi.
La cybersécurité, c'est un marché énorme et qui est appelé à grandir. Est-ce que il y a un fantasme un peu qui circule, c'est-à-dire que des virus qui seraient créés par des sociétés qui vendent des antivirus. Est-ce que c'est vrai ça ?
Non, je pense que là-dessus, bon, je comprends que ça puisse faire parler les gens, mais non, je crois qu'il faut être sérieux. Si c'est le cas, ce serait vraiment minoritaire.
Oui, mais même exactement, parce que en fait, un virus, on peut le comprendre, on peut voir sa source. Je pense que si ça existait, c'est totalement marginal et de toute façon, si ça existait, on le décèlerait relativement rapidement. Donc, je crois que ça fait partie des légendes ou des fantasmes autour de la cybersécurité. C'est quelque chose, c'est un phénomène invisible, la cybersécurité. Mm-hmm. Vous l'avez noté au travers de votre question. On fantasme beaucoup sur les phénomènes invisibles. Hein, et on lutte d'ailleurs au niveau sociétal, on lutte toujours très mal sur ce qui est invisible. Hein. On lutte mal contre le réchauffement climatique parce qu'on n'en voit pas les conséquences immédiates. Donc c'est pour ça que quand on parlait d'éducation, je pense que c'est très important pour qu'on puisse avoir une relation sereine et finalement réapprendre, retrouver de l'appétence au risque, ce qui est un truc qui manque classiquement dans nos sociétés, c'est de revenir à la réalité de ce qu'est ce phénomène et les incidents, encore une fois, arrivent, c'est encore le cas de WannaCry, plutôt simplement parce qu'on a des mauvais comportements par rapport à ce risque.
Et est-ce Oui, je vous en prie. Là-dessus, ouais, je pense pas qu'aujourd'hui, bon, il y a besoin de faire des faux virus. La criminalité, d'il y a quelques années, elle a réussi sa transformation numérique. Ils ont diversifié leur portefeuille de produits.
Les mafias travaillent dans la
Ils ont réalisé la transformation numérique de la même façon que les sociétés réalisent la transformation numérique. Ils profitent à plein de l'Internet et de la globalisation que permet l'Internet, la mondialisation. La mondialisation dans l'Internet, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Ce n'est pas un sujet politique. Là, y a pas,
par dire, définition, Internet
par définition,
est mondial.
Donc la cybercriminalité s'est tellement développée que je pense que toutes les sociétés ont déjà assez à faire avec la cybercriminalité d'aujourd'hui.
Philippe Trouchot, une dernière question en quelques secondes. Est-ce que finalement c'est comme le dopage dans le sport, les cyberattaquants ont toujours une longueur d'avance ?
Non, je pense qu'on arrivera à un état beaucoup plus stable du digital et de l'Internet dès lors que chacun y consacrera les moyens nécessaires, qu'on aura plus de collaboration et, dernier point qui est un crédit-cœur pour moi, qu'on aura plus de talents qui se dirigeront dans cette activité.
Merci Philippe Trouchot, merci aussi Vincent Merlin. C'est la fin de ce débat. Très bonne soirée à tous.